Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le budget des hôpitaux bénéficiera d'un coup de pouce d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans, dont 300 millions dès 2020, annonce faite ce matin par le Premier ministre. Par ailleurs, l'État va reprendre 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux sur 3 ans. Enfin, Édouard Philippe a également annoncé qu'une prime annuelle de 800 euros net serait attribuée de manière pérenne à quelque 40 000 infirmiers et aides-soignants. Voilà donc peu ou prou la nature du plan d'urgence dévoilé ce matin par le gouvernement pour répondre au mouvement social inédit dans l'hôpital public.
Et dans votre journal également, Emmanuel Macron qui veut en finir avec les violences subies par les enfants.
Oui, ce matin, le président a notamment donné 6 mois aux plateformes et aux opérateurs numériques pour proposer des solutions visant à protéger les enfants. Faute de quoi, eh bien, le gouvernement présentera une loi rendant le contrôle parental automatique sur Internet.
Hier, Emmanuel Macron, toujours lui, a mis les édiles au centre de l'acte 2 de son quinquennat.
Oui, rien ne se fera sans vous, a notamment lancé le chef de l'État, et afin de savoir s'il a convaincu ou non, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France. Et puis nous ouvrirons ce journal avec l'actualité à l'étranger, en Iran tout d'abord, secoué depuis plusieurs jours déjà par des manifestations violentes contre une hausse du prix de l'essence, manifestation qui aurait fait des dizaines de morts. Enfin, nous nous rendrons également à Hong Kong où des manifestants pro-démocratie sont toujours retranchés sur un campus de la ville pour la 4e journée consécutive. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Quelle vie après le traumatisme des attentats? Comment réparer? Comment se reconstruire? Comment dépasser l'état de victime? On en parlera avec notre invité, le magistrat Antoine Garapon. Il nous rejoindra dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Alors que la semaine dernière encore, les images de mouvements de foule, de slogans et d'occupations enthousiastes des rues par les protestataires commençaient à fleurir sur les écrans. Au diapason d'ailleurs des mouvements de contestation dans la région, depuis un silence aussi assourdissant que préoccupant est venu recouvrir le dernier mouvement de révolte populaire en Iran. Face à la colère qui depuis samedi dernier a envahi les rues, il semble que le pouvoir n'ait pas tardé à répondre par la répression la plus féroce. Selon l'organisation Amnesty International, celle-ci aurait déjà fait au moins 106 morts dans une vingtaine de villes du pays. Pour l'heure, les autorités se bornent à dénoncer un complot de l'étranger. Ce matin encore, l'ayatollah Ali Khamenei a répété que ces derniers jours, l'Iran avait, je cite, repoussé l'ennemi. Alors, en absence d'internet coupé par le gouvernement et alors que les médias nationaux sont eux tenus de ne pas couvrir les événements, si ce n'est pour dénoncer les saccages des émeutiers, pour relayer les déclarations officielles. La situation reste donc très difficile à évoluer à l'échelle du pays, mais tout porte à croire, Christian Chéneau, que le bilan des victimes risque encore de s'alourdir.
C'est une répression à huis clos qui se joue actuellement en Iran. Pour Amnesty International, la coupure d'Internet signifie que les manifestations continuent dans le pays. L'ONG a réussi à recueillir des témoignages de l'intérieur qui montrent une répression brutale, explique Mansoureh Mills d'Amnesty International.
Des gens nous ont dit qu'ils avaient le sentiment d'être dans une zone de guerre à cause du niveau excessif et létal de la répression utilisée par les forces de sécurité contre des manifestants. Des témoins ont rapporté que ces forces de sécurité avaient tiré directement sur les contestataires et que des snipers avaient visé des gens depuis des toits d'immeubles ou depuis un hélicoptère.
Ce qui est nouveau, poursuit Mansoureh Mills, c'est que les gens n'ont plus peur de l'appareil répressif du pouvoir iranien.
Les autorités iraniennes sont devenues beaucoup plus nerveuses parce que les gens ne les craignent plus. Pour la première fois, des gens ont crié le slogan « Mort à Khamenei ». Et ça, on ne l'avait jamais entendu dans des manifestations précédentes.
L'ONG rapporte que les familles réclament en vain aux autorités les corps de leurs proches tués dans les manifestations contre la hausse du prix de l'essence. Plus de 1000 personnes auraient été interpellées au cours des derniers jours. Elles n'ont ni accès à leur famille ni à un avocat, affirme Amnesty International, qui s'inquiète d'un risque de torture.
La Turquie aura renvoyé dans leur pays d'origine la plupart des combattants étrangers du groupe État islamique détenus sur son sol d'ici à la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Intérieur. Cette semaine encore, les autorités prévoient d'expulser 6 ou 7 combattants de Daesh supplémentaires, notamment en Irlande et aux Pays-Bas. Et puis parallèlement, un rapport du Pentagone publié hier souligne lui qu'après avoir tiré profit non seulement de l'offensive turque lancée le mois dernier dans le nord-est de la Syrie, mais aussi du retrait des troupes américaines de la région, eh bien le groupe djihadiste a su reconstituer des moyens et des ressources et renforcer sa capacité à planifier des attaques à l'étranger. Quand l'argent du clan de Bachar al-Assad passe par la Russie, à en croire une récente enquête de l'ONG britannique Global Witness, des cousins du boucher de Damas auraient investi ces dernières années quelques 40 millions de dollars dans l'immobilier en Russie, toujours selon l'ONG. Il s'agirait vraisemblablement d'opérations de blanchiment d'argent destinées à contourner les sanctions internationales. L'armée israélienne a revendiqué tôt ce matin une série de frappes aériennes contre des sites militaires en Syrie en représailles à des tirs de roquettes. La veille, ces attaques se sont concentrées pour l'essentiel près de la capitale, Damas, donc, mais aussi dans le sud du pays, tout près de la frontière israélienne. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Alors, il faut préciser, Frédéric, que depuis le début de ce conflit syrien, c'était en 2011, Israël a déjà mené plusieurs raids en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad, de même d'ailleurs que contre ses alliés indéfectibles, l'Iran et le Hezbollah libanais, ennemi de l'État hébreu. En revanche, Frédéric, il est assez rare qu'Israël reconnaisse être à l'origine de ces attaques.
Oui, Thomas, 3 tweets de l'armée israélienne ce matin pour revendiquer ses frappes contre des dizaines de cibles de l'armée syrienne et plus encore de la force Al-Quds, l'unité d'élite de l'armée iranienne. Les cibles se trouvent toutes dans une bande de 80 km le long de la frontière entre Israël et la Syrie, notamment Damas et sa banlieue. Des batteries de missiles sol-air, des défenses antiaériennes, des entrepôts ont été visés et des locaux du ministère syrien de la Défense à l'aéroport de Damas. L'attaque décidée hier soir par Benjamin Netanyahou est l'une des plus fortes depuis ces dernières années. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, elle a tué 11 personnes en Syrie, dont 7 étrangers. Hier matin, 4 roquettes étaient parties de Syrie vers Israël. Israël qui a les yeux rivés sur ses alliés de l'Iran qui l'entourent. La Syrie à l'est, le Hezbollah libanais au nord et le djihad islamique à Gaza au sud-ouest. Le nouveau ministre de la Défense israélien préfère donc avertir « Nous couperons toutes les tentatives de la pieuvre iranienne où qu'elle soit, et nous pourrions même viser la tête qui se trouve à Téhéran. » En revanche, Israël ménage l'allié russe de Damas. L'armée israélienne n'a pas visé d'installation militaire russe et le conseiller national à la sécurité israélien est à Moscou pour se coordonner avec la Russie.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Et puis j'ajoute que toujours en Israël, la fin du mandat accordé au leader de la formation centriste bleu-blanc Benny Gantz pour présenter un gouvernement arrive à expiration. Le rival du Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a plus que jusqu'à ce soir minuit pour allier les voix nécessaires à la formation d'une coalition. Mais d'ores et déjà, Avigdor Lieberman vient de préciser qu'il refuserait de soutenir Netanyahou ou Gantz au poste de Premier ministre. C'est un nouveau témoignage qui vient accabler un peu plus encore le président américain hier lors d'une série de nouvelles auditions publiques menées par les démocrates. Un lieutenant-colonel conseiller à la Maison-Blanche a raconté comment il avait été alarmé par l'appel, je cite, inapproprié au cours duquel le président Trump a demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son adversaire politique Joe Biden. Un témoignage qui a fortement embarrassé d'ailleurs les républicains, lesquels ont aussitôt cherché à le discréditer. Et puis cet après-midi, ce sera au tour cette fois-ci de Gordon Sondland de livrer au Congrès un témoignage public qui pourrait là aussi s'avérer accablant pour le président américain. À moins de 3 mois du premier vote de la primaire démocrate américaine, la pression s'accroît désormais sur les prétendants à la Maison Blanche qui s'affronteront ce soir lors d'un débat télévisé avec le trio de tête, Joe Biden tout d'abord, sur qui pèsent des doutes de plus en plus sérieux sur sa viabilité dans la course, alors même qu'il est aujourd'hui happé justement dans le scandale ukrainien. Et puis par ailleurs, Elizabeth Warren et Bernie Sanders qui eux risquent d'être assaillis pour leur position jugée irréaliste par leurs concurrents. Enfin, toujours aux États-Unis, la démarche ne surprendra personne tant elle confirme la volonté répétée depuis plusieurs mois de Washington de durcir le ton à l'égard de Pékin. En revanche, elle illustre une détermination bipartisane des élus d'afficher un soutien au mouvement de contestation qui secoue Hong Kong. Hier, le Sénat a adopté à l'unanimité un texte destiné à protéger les droits humains dans l'ex-république britannique, un texte qui doit désormais être soumis à la Chambre des représentants, mais quoi qu'il en soit, celle-ci a déjà voté sa propre législation sur la question le mois dernier. Seule incertitude donc, la Maison Blanche n'a jusqu'à présent pas donné d'indication sur les intentions de Donald Trump. Or, certains de ses conseillers pourraient être inquiets de l'impact d'une telle loi sur les négociations commerciales avec la Chine. Toujours est-il que Pékin a aussitôt réagi avec colère ce matin, avertissant qu'il pourrait prendre des mesures de représailles. Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade américaine a d'ailleurs été convoqué dès ce matin par les autorités chinoises qui demandent aux États-Unis d'arrêter d'interférer dans ses affaires interne reste. Qu'à Hong Kong, donc, nombreux sont ceux désormais à redouter le scénario du pire. Les premiers procès des étudiants protestataires déjà interpellés doivent commencer aujourd'hui. Certains pourraient risquer jusqu'à 10 ans de prison si la qualification d'émeutiers était retenue contre eux. Et puis, au quatrième jour de siège à l'université polytechnique, eh bien, une centaine de protestataires sont toujours retranchés à l'intérieur des bâtiments. Dominique André, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Ce matin, des avocats, Dominique, sont entrés pour conseiller les jeunes sur l'opportunité ou non de se rendre à la police. Où en est-on actuellement ?
Eh bien, actuellement, la police maintient la pression avec des hommes cagoulés et armés qui patrouillent devant le campus. Il reste toujours des jeunes qui sont dispersés sur cet immense campus de Polytechnique. La stratégie maintenant, c'est d'obtenir leur reddition, en fait, et de manière pacifique, assure un responsable de la police de Hong Kong qui est venu parler à la presse tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, des avocats sont rentrés dans cette université pour discuter avec les manifestants les plus déterminés qui restent encore. Ils sont venus les conseiller, tenter d'établir un lien de confiance avec la police et les convaincre que s'ils se rendent, leur sortie se fera sans violence, ils seront arrêtés et la justice décidera alors de leur sort. Toute la journée, on a vu aussi des équipes de nettoyage s'affairer pour balayer les traces des violences des derniers jours. Plusieurs ambulances viennent de rentrer à l'instant sur le campus. Une équipe de Médecins Sans Frontières est venue aussi pour apporter des soins aux protestataires qui souffrent d'hypothermie et qui manquent de vivre. 7 jeunes ont été arrêtés aujourd'hui et 1 000 000 environ en 4 jours.
Merci Dominique André en direct de Hong Kong. La situation est encore plus grave que celle que nous avions analysée. C'était la semaine dernière lors de son allocution impromptue en marge d'un déplacement dans la Marne. Emmanuel Macron lui-même avait fini par l'admettre, promettant des décisions fortes pour l'hôpital. Et ce matin, après 8 mois de grève, le gouvernement a donc fini par dévoiler son plan d'urgence. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Alors parmi les remèdes prescrits figurent notamment des primes pour les personnels, une rallonge budgétaire, mais aussi une reprise partielle de la dette des hôpitaux publics.
Exactement, ce sont les 3 grands axes à retenir pour ces annonces. D'abord, une reprise de dette de 10 milliards d'euros des hôpitaux, ça se fera sur 3 ans. Autre coup de pouce de ce plan d'urgence, le budget des hôpitaux va augmenter de 1,5 milliard d'euros. Là aussi sur 3 ans, avec 300 millions d'euros dès l'année prochaine. Édouard Philippe promet que les tarifs hospitaliers, soit les recettes des établissements, seront garantis avec une hausse de 0,2% par an. Concernant le personnel, le gouvernement annonce une prime annuelle de 800 euros net pour 40 000 infirmiers et aides-soignants de Paris et la proche banlieue qui gagnent moins de 1 900 euros par mois. Ça fait 66 euros en plus sur leur salaire. Une autre enveloppe va être allouée aux hôpitaux pour récompenser, selon leurs propres critères, l'engagement et l'investissement des personnels. Ça représente en moyenne une prime annuelle d'environ 300 euros pour à terme jusqu'à 600 000 personnes. 300 euros par an, ça fait donc 25 euros par mois. Les aides-soignants également sont concernés par ces mesures. Leur départ à la retraite sera amélioré et une prime de 100 euros mensuelle sera instaurée pour les personnels formés en gériatrie pour rendre le travail en EHPAD plus attractif. Enfin, Édouard Philippe et Agnès Buzyn annoncent une réforme de la gouvernance dans les hôpitaux pour davantage impliquer les médecins dans les prises de décision. Voilà pour les principales mesures. Avec quand même 2 grands thèmes absents, pourtant au cœur des revendications des personnels, à savoir des créations de lits et de postes. Aucune annonce sur le sujet. Une nouvelle manifestation est prévue le 30 novembre. Certains syndicats se joindront au mouvement du 5 décembre et les internes, quant à eux, seront en grève à partir du 10 décembre.
Merci Laura Dulieu. Alors vous l'avez dit, l'État va donc reprendre 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux sur 3 ans afin d'aider à restaurer l'équilibre financier des établissements. Marie Vino, bonjour.
Bonjour.
10 milliards, c'est peu ou prou un tiers de la dette totale des hôpitaux qui avoisine les 30 milliards. D'où vient, Marie, cette dette absolument colossale ?
Eh bien, comme les collectivités locales, les hôpitaux ont la possibilité de s'endetter pour investir. La dette des hôpitaux n'a pas servi à financer ses besoins de fonctionnement, les salaires, le petit matériel. C'est une dette contractée pour financer des équipements coûteux que l'hôpital ne peut pas payer comptant. En soi, la dette de l'hôpital n'est pas un problème. 30 milliards, cela représente donc moins de la moitié que 70 milliards qui est le budget total de fonctionnement de l'hôpital. Le problème, c'est qu'une dette, il faut la rembourser. Et pour la rembourser, il faut pouvoir dégager de la ressource sur son budget. Or, les hôpitaux manquent de moyens et donc ils n'ont pas su, pour un certain nombre d'entre eux, rembourser leurs dettes progressivement. Des dettes pour l'investissement à réaliser demain se sont donc additionnées aux dettes pour l'investissement fait hier. La dette des hôpitaux a triplé ces 10 dernières années. années et elle est devenue de moins en moins soutenable. La Cour des comptes le détaille dans un récent rapport. La capacité des hôpitaux à rembourser leurs emprunts n'a fait que diminuer ces dernières années. Alors que l'État reprenne 10 milliards sur les 30 milliards de dettes des hôpitaux, cela va clairement alléger les contraintes financières des hôpitaux, donc dégager des fonds qui pourront être utilisés pour le fonctionnement courant, pour le remboursement des dettes qui restent, soit même pour investir à nouveau. De plus, cela fait sens économiquement, car l'État finance sa dette à des taux au plancher, alors que les hôpitaux ont des crédits bancaires plus chers. Est-ce que ça va durablement changer le problème? Pour certains hôpitaux très endettés, oui, mais le problème de fond de l'hôpital n'est pas sa dette, encore une fois, c'est son sous-financement chronique par rapport à des besoins en constante augmentation. Les annonces d'aujourd'hui inversent-elles cette tendance? Eh bien, les associations et syndicats mobilisés depuis 8 mois réclament toujours une augmentation des dépenses hospitalières de 4 à 5% et non 2,4% comme concédé aujourd'hui.
Merci Marie Viennot. À eux seuls, les chiffres témoignent de l'urgence absolue qu'il y a à trouver une solution durable à ce véritable fléau encore trop méconnu. Aujourd'hui en France, on estime qu'un enfant meurt tous les 5 jours de la violence de ses parents, qu'un jeune est victime d'une agression sexuelle toutes les 3 minutes et qu'entre 8000 à 10000 mineurs se prostituent. Des chiffres alarmants et même probablement en deçà d'ailleurs de la réalité du fait du silence entourant le sujet. Cécile de Kervas-Douai, bonjour.
Bonjour.
Alors pour lutter contre ce fléau, Emmanuel Macron a présenté ce matin à l'UNESCO son plan triennal pour en finir avec la violence faite aux plus jeunes. 6 objectifs et 22 mesures au total, Cécile, pour libérer la parole des enfants et porter attention aux victimes.
Oui, d'abord, il s'agit de mieux repérer les situations de violence et de maltraitance dont sont victimes les enfants. Et ça passe en premier lieu par une meilleure formation des médecins qui sont en contact régulier avec les enfants, mais qui ne représentent aujourd'hui que 5% des signalements aux services sociaux. Alors dans chaque région, à partir de 2020, eh bien des équipes pédiatriques référentes iront à la rencontre des médecins généralistes pour les pousser à alerter en cas même de petites suspicions de violence. Dès 2020, le 119, numéro gratuit d'alerte enfance en danger, verra aussi ses moyens augmenter de 8% avec 5 écoutants supplémentaires et une plateforme numérique accessible aux personnes handicapées. Parce que sachez-le, en 2019, un enfant en situation de handicap a 4 fois plus de probabilité de subir des violences sexuelles. Ce plan prévoit également de mieux accueillir les enfants qui sont victimes de violences avec, dès 2020, un accueil pédiatrique spécialisé à l'hôpital pour chaque département français. Et puis, il y a le volet prévention sur lequel le président Macron a beaucoup insisté ce matin. Il a annoncé que pour protéger les enfants de personnes potentiellement dangereuses, eh bien les peines pour l'utilisation d'images pédopornographiques vont être portées à 5 ans. Et les auteurs condamnés, il y en a environ 400 par an, seront désormais inscrits au fichier automatisé qui recense les auteurs de violences et agressions sexuelles. Ce fichier sera obligatoirement consulté pour tout recrutement de personnes dans les crèches, les écoles, les clubs de sport, les associations et les centres de loisirs, ce qui, sachez-le, n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Enfin, le président Macron souhaite protéger les enfants de contenus violents ou pornographiques sur Internet en mettant en place un contrôle parental par défaut plutôt qu'une option volontaire. Surtout, il veut forcer les opérateurs numériques, s'il le faut via une loi qui est en préparation aujourd'hui, afin que les sites pornographiques renforcent le contrôle d'âge des internautes. Car sachez-le, aujourd'hui en France, les enfants sont exposés pour la première fois aux images porno dès l'âge de 13 ans.
Merci Cécile de Kervas-Douai. Ce fut une ode à l'unité, au rassemblement. Hier, dans une ambiance visiblement apaisée, Emmanuel Macron n'a pas eu de mots assez tendres et élogieux pour témoigner sa considération à l'égard des maires de France réunis en congrès porte de Versailles à Paris. « J'ai tant appris à vos côtés », a notamment déclaré le chef de l'État avant de préciser « J'ai besoin de vous ». Reste désormais à savoir si les paroles enjôleuses du président auront donc réussi à convaincre. Et pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France, en direct et en duplex de la Porte de Versailles à Paris. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Et pour commencer donc, monsieur Laurent, cette première question, l'opération séduction d'Emmanuel Macron, hier, vous a-t-elle convaincu?
Vous savez, les maires sont des gens pragmatiques et d'expérience et il faut beaucoup de temps et d'efforts pour les séduire en tout cas. Alors s'agissant de la conviction, ce que nous avons entendu évidemment est toujours agréable et nous savons gré au chef de l'État de reconnaître donc le rôle important que jouent les maires et leurs équipes dans la vie locale et dans la vie quotidienne du pays. Cela étant, vous savez, les maires sont des gestionnaires, hein, ils ont donc un certain nombre de contraintes de gestion et ils ont besoin de réponses concrètes à toute une série de sujets. qui sont d'ailleurs totalement sur la table pendant ce congrès. Et de ce point de vue, nous n'avons pas entendu beaucoup de propositions. Alors naturellement, c'est aussi le rôle des ministres, c'est aussi le rôle du Premier ministre qui sera demain au congrès. Et donc nous écouterons évidemment avec intérêt ce que dira le Premier ministre de ce point de vue.
Il y a deux ans, Monsieur Laurent, quand le président Macron était venu au congrès des maires, il avait été sifflé. Pas cette fois. Est-ce que ça s'est quand même malgré tout apaisé ?
Oui, parce que nous avons bien constaté, le président de la République a bien compris à travers le rôle qu'ont joué les maires dans l'apaisement de la crise des gilets jaunes, par exemple, ou encore dans l'organisation du grand débat. Donc le président de la République a bien perçu donc ce rôle des maires, qui était un rôle très proche de la population, à même d'analyser, de comprendre les revendications et les demandes, les attentes de la population, et aussi de les verbaliser, de les exprimer, et de les faire remonter auprès des pouvoirs publics. Donc il a bien compris ce rôle. Il a bien compris aussi que on ne pouvait pas réformer ce pays, probablement dans toute une série de domaines, sans le concours des élus locaux en général, des maires, de leurs équipes, mais aussi des élus départementaux et régionaux, et j'allais même dire, sans le concours aussi, d'une certaine manière, des syndicats. Nous sommes un peu dans la même situation parfois que les syndicats. Nous avons une volonté de partenariat forte avec l'État, et cette volonté n'est pas toujours entendue, ou en tout cas elle n'est pas bien mise en œuvre, parce que malheureusement l'appareil d'État a une culture qui est restée très centralisatrice. D'une certaine manière, un certain nombre de hauts fonctionnaires d'État pensent et sont convaincus, et c'est pour ça que c'est difficile, ils sont convaincus qu'ils sont les seuls à porter l'intérêt général.
Emmanuel Macron a défendu son bilan hier, et puis il a défendu son Premier ministre, le gouvernement, qui ont été mis en cause, hein, notamment par André de Lagnel, vice-président, oui, de l'AMF. Il a dit ils sont mis en cause pour des décisions qu'ils n'ont pas prises, pour des réformes qui ont eu lieu avant son arrivée, leur arrivée aux responsabilités. Est-ce que c'est le cas, ou bien est-ce que l'actuel pouvoir exécutif, vous estimez qu'il est responsable de beaucoup des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui ?
Non, le président de la République a raison de dire que, naturellement, il n'est pas responsable et son gouvernement n'est pas responsable de tous les maux. Bien sûr, nous le savons. Mais précisément, ce que nous lui demandons, c'est de corriger un certain nombre de ces points sur l'intercommunalité. C'est le cas. Il y a une bonne volonté qui a été affichée au mois de juin, notamment par Sébastien Lecornu, qui a élaboré un texte qui était satisfaisant. Nous pensons qu'il peut aller plus loin. Nous l'avons dit au Sénat. Le Sénat a pris acte de nos demandes, notamment en ce qui concerne l'assouplissement des questions relations entre la commune et l'intercommunalité. Et puis, le texte arrive à l'Assemblée et il est immédiatement détricoté par rapport à ce qu'avait proposé le Sénat. J'ai cru comprendre dans les propos du président de la République que les choses restaient cependant ouvertes, puisque le projet de loi est en cours de discussion. Ça sera un signe si, en effet, nous parvenons à obtenir nos propositions, la mise en œuvre de nos propositions, qui sont des propositions modérées sur cette question. Hein, il ne s'agit pas de tout mettre par terre. Naturellement, l'intercommunalité, ce sont les maires qui l'ont créée. Donc c'est leur création. Mais en revanche, la loi est allée trop loin, la loi de 2015, donc pas la sienne. La loi de 2015 est allée trop loin. Et s'il veut donner la preuve qu'il nous a bien compris dans nos préoccupations, eh bien, ce que nous lui demandons, c'est de corriger précisément les éléments qui ne conviennent pas dans cette loi de 2015.
Donc avec cette loi engagement et proximité, oui, dont vous parlez là, oui, vous doutez qu'il soit qu'on en soit là pour le moment, c'est bien ça?
Ben, je pense que c'est en discussion. Je pense qu'il y a d'ailleurs au sein de la majorité quelques discussions sur la question, parce que je connais un certain nombre de parlementaires de la majorité qui sont d'accord avec nos demandes.
Est-ce qu'on n'en demande pas trop à l'État ? Est-ce qu'on n'a pas en France en permanence ce réflexe de se tourner vers l'État et de dire qu'est-ce que fait l'État, de mettre en cause systématiquement, oui, son incarnation qu'est le président, de lui réclamer toujours plus d'argent ?
Oui, mais justement, c'est bien, précisément, c'est bien notre discours. C'est que nous le disons au président de la République. Monsieur le Président, vous avez tous sur les épaules, tout le poids du pays sur les épaules. C'est trop. Il faut vous alléger. Et nous sommes prêts, nous, élus locaux, départements, régions, communes, intercommunalités, nous sommes prêts à prendre davantage de responsabilités. Mais pour prendre davantage de responsabilités, d'abord, il faut avoir les moyens et il faut avoir une autonomie de gestion et une autonomie fiscale. En France, c'est absolument indispensable. Nous ne sommes pas, je le redis, parce que ça a été évoqué par le président de la République, en France, nous ne sommes pas un pays fédéral. Et nous ne serons probablement jamais un pays fédéral. Donc c'est pas du tout le même système. Parler de l'Allemagne, c'est malheureusement faire la preuve qu'on n'a pas suffisamment réfléchi.
Dernière question, on parle beaucoup des difficultés des maires à exercer leur mandat et du fait qu'un certain nombre d'élus ont l'intention de rendre leur tablier. Est-ce que c'est votre cas ?
Mon cas personnel ?
Oui.
Moi, vous savez, je suis animé comme tous les maires, de la passion de ma commune, de ma ville, de mon territoire, de la passion de ce qui s'y passe, de ce qu'y font les habitants et de la façon dont ils y vivent. On ne peut pas être maire sans être passionné. C'est intrinsèquement lié. En revanche, il est vrai que les difficultés que nous rencontrons, parfois avec des relations avec certains de nos habitants, mais aussi ces difficultés avec les questions intercommunales, les difficultés de moyens que nous avons subies. Là encore, c'est pas le gouvernement actuel, le gouvernement précédent. Tout ceci a pu et peut décourager un certain nombre de maires. Mais j'ai noté que cette passion, finalement, elle prenait le dessus. Il y a un an, il y avait davantage de maires qui ne voulaient pas se représenter qu'aujourd'hui. Ça veut dire que la passion a repris le dessus. C'est très encourageant pour notre pays. C'est reconnu d'ailleurs par le président, donc tant mieux. En ce qui me concerne, je suis dans ce domaine en réflexion.
Et on terminera positive. Par ces mots. Merci Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux et secrétaire général de l'association des maires de France d'avoir répondu en direct et en duplex donc de la porte de Versailles à Paris à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert ainsi qu'à Alain Pied pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Avec de la grisaille bien installée sur une bonne moitié nord du pays, annonciateur de l'arrivée d'une nouvelle perturbation en soirée par la Bretagne. Plus au sud, le temps restera variable. À noter que le département des Landes est lui toujours placé en vigilance orange. Inondation pour la crue de l'Adour moyen. Quant aux températures, elles afficheront entre 5 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.